Chapitre 68. Eshonaï. Ils la nommèrent l'ultime désolation, mais ils mentaient. Nos dieux ont menti. Oh, comme ils ont menti. La tempête éternelle approche. Je l'entends murmurer. Je vois le mur de sa tempête. Je connais son cœur. Tanatanev, 1173. 8 secondes avant la mort. Un travailleur itinérant azéen. Échantillon particulièrement remarquable. Les soldats en bleu hurlaient, poussaient des cris de guerre pour s'encourager. Les bruits évoquaient une avalanche tonitruante derrière Adeline, tandis qu'il maniait sa lame à gestes furieux. Il manquait de place pour adopter une véritable posture. Il devait rester en mouvement, trouer les rangs des Parchendi, mener ses hommes vers le gouffre ouest. Le cheval de son père et le sien étaient toujours à l'abri, transportant des blessés à travers les rangs du fond. Les porte-éclats n'osaient cependant pas monter à cheval. Dans cet espace restreint, les richadiums se feraient abattre et leurs cavaliers tomberaient à terre. C'était le type de manœuvre de combat impossible sans porte-éclat. Un assaut en infériorité numérique, effectué par des hommes blessés, épuisés, ils auraient dû se faire arrêter net, se faire écraser. Mais l'on n'arrêtait pas si facilement les porte-éclats. Leur armure laissait échapper de la fulgiflamme. Leur lame de 2 mètres décrivait d'amples mouvements. Adeline et Dalinar faisaient voler en éclats les défenses des Parchendi, créant une ouverture, une brèche. Leurs hommes, les mieux entraînés des camps de guerre à Leti, surent la mettre à profit. Ils formèrent un triangle allongé derrière leur porte-éclats, recourant à des formations de lanciers pour forcer un passage et continuer à avancer. Adeline courait presque. Le dévers de la colline leur donnait l'avantage, leur assurant un meilleur équilibre, leur permettant de dévaler la pente comme des chules en train de charger. Cette chance de survie, alors qu'ils croyaient que tout était perdu, donnait aux hommes un regain d'énergie pour cette dernière ruée vers la liberté. Ils subissaient des pertes énormes. Déjà, l'armée de Dalinar avait perdu 1 millier d'hommes supplémentaires sur les 4 qui restaient, peut-être davantage. Mais ça n'avait aucune importance. Les Parchendi se battaient pour tuer, mais les Aleti, cette fois-ci, se battaient pour vivre. « Héros tout-puissant !» se dit Teft en regardant Kaladine se battre. Quelques instants plus tôt, le garçon semblait tout proche de la mort, la peau d'un gris terne, les mains tremblantes. À présent, il était un tourbillon éblouissant, une tempête maniant la lance. Teft avait connu bien des champs de bataille, mais il n'avait jamais rien vu qui se rapproche un tant soit peu de ce spectacle. Kaladin défendait à lui seul la zone du pont. De la fulgiflamme blanche s'échappait de lui comme un feu éclatant. Sa vitesse était incroyable, presque inhumaine, et sa précision. Chaque coup de lance frappait un cou, un flanc ou une autre partie exposée de chair de Parchendi. C'était bien plus que la fulgiflamme. Teft n'avait qu'un souvenir fragmentaire des choses que sa famille avait tenté de lui enseigner, mais tous ses souvenirs concordaient. La fulgiflamme n'accordait pas de talent. Elle ne pouvait pas transformer un homme en ce qu'il n'était pas. Elle intensifiait, renforçait, revigorait. Elle perfectionnait. Kaladin se baissa, frappa du talon de sa lance la jambe d'un Parchendi, le fit tomber à terre, puis se releva pour parer un coup de hache, bloquant le manche avec la hampe de sa lance. D'une main, il glissa la pointe de la lance sous le bras du Parchendi et la planta dans son aisselle. Alors que le Parchendi tombait, Kaladin dégagea sa lance et frappa de l'autre bout la tête d'un Parchendi qui s'était trop approché. Le bout de la hampe se brisa dans une gerbe d'éclats de bois et le casque de carapace du Parchendi éclata. Non, ce n'était pas simplement la fulgiflamme. C'était un virtuose de la lance dont la capacité était accrue à un degré stupéfiant. Les hommes de pont se rassemblèrent autour de Teft, ébahis. Son bras blessé ne semblait pas lui faire aussi mal qu'il l'aurait dû. « C'est comme s'il faisait partie du vent lui-même, » dit Drei, « qu'on aurait attiré sur terre pour lui donner vie. Il n'est pas humain, c'est un spren. » Sigzil, demanda Scar, yeux écarquillés. « T'as déjà vu quelque chose de semblable ?» L'homme à la peau sombre fit signe que non. père des tempêtes, murmura Pete. Qu'est-ce qu'il est? Il est notre chef de pont, répondit Teft en s'arrachant à sa rêverie. De l'autre côté du gouffre, Kaladin esquiva de justesse un coup de masse par Shendi. Et il a besoin de notre aide. Première et deuxième équipe, prenez le côté gauche, ne laissez pas les Parchendi le cerner. Troisième et quatrième équipe, accompagnez-moi sur la droite. Rock et Lopen, tenez-vous prêts à évacuer les blessés s'il y en a. Les autres, formation en muraille. N'attaquez pas, contentez-vous de rester en vie et de les tenir à distance. Et Lopen, jette-lui une lance qui ne soit pas cassée. Avec un cri, Dalina rabattit un groupe de guerriers Parchendi. Il chargea par-dessus leurs cadavres, gravit en courant une courte pente et sauta sur les Parchendi plusieurs mètres en contrebas, assénant de grands coups d'épée. Son armure pesait un poids écrasant sur son dos, mais l'énergie de sa lutte lui permettait de continuer. Derrière lui, la garde Cobalt, ses derniers membres restants, s'élança au bas de la pente en criant. Ils étaient condamnés. Ces hommes de pont devaient être morts à présent. Mais Dalinar les bénissait pour leur sacrifice. Il s'était peut-être révélé inutile en fin de compte, mais il avait transformé le voyage. Voilà comment ces soldats devaient tomber, pas effrayés et cernés, mais alors qu'ils se battaient avec passion. Ils n'allaient pas se laisser glisser dans le noir en silence, pas question. Il cria de nouveau son défi tout en fonçant sur un groupe de Parchendi, sa lame décrivant de grands moulinets. Il traversa le carré de Parchendi morts, dont les yeux brûlaient alors même qu'ils tombaient. Et Dalinar atteignit la pierre nue. Il cligna des yeux, abasourdi. « Nous avons réussi », se dit-il, incrédule. « Nous avons traversé jusqu'au bout. » Derrière lui, les soldats hurlaient, d'une voix fatiguée qui semblait presque aussi stupéfaite que lui. Juste devant lui, un dernier groupe de Parchendi reposait entre Dalinar et le gouffre, mais il lui tournait le dos. Pourquoi étaient-ils les hommes de pont? Les hommes de pont se battaient. Dalinar en resta bouche bée et baissa justicière de ses bras engourdis. Ce petit groupe défendait la tête de pont, se battant désespérément contre les Parchendi qui cherchaient à les faire reculer. C'était la chose la plus incroyable, la plus glorieuse que Dalinar ait jamais vue. Avec un cri de triomphe, Adeline émergea de la masse des Parchendi sur la gauche de Dalinar. L'armure du jeune homme était éraflée, fendillée et rayée, et son casque s'était brisé, laissant sa tête dangereusement exposée. Mais son expression était triomphante. « Vas-y, vas-y !» hurla Dalinar, doigt tendu. « Va les soutenir, nom des foudres ! Si ces hommes de pont tombent, nous sommes tous morts !» Adeline et la garde Cobalt se précipitèrent. Vaillant et sans hardi, le richadium d'Adeline les dépassèrent au galop, portant chacun trois blessés. Dalinar détestait devoir laisser tant de blessés sur les pentes, mais les codes étaient très clairs. Dans ce cas précis, il était plus important de protéger ceux qu'il pouvait sauver. Dalinar se retourna pour frapper le groupe principal de Parchendi sur sa gauche, afin de s'assurer que le couloir reste ouvert pour ses troupes. Une grande partie des soldats se précipitèrent pour se mettre à l'abri, mais plusieurs escouades prouvèrent leur courage en se mettant en rang sur les côtés pour continuer à se battre, élargissant ainsi la brèche. La sueur avait trempé le foulard sous le casque de Dalinar et coulait sur ses sourcils jusque dans son œil gauche. Il jura, leva la main pour ouvrir sa visière et s'immobilisa. Les soldats ennemis s'écartaient. Au milieu se tenait un Parchendi géant de plus de 2 mètres, portant une cuirasse d'éclat d'argent luisant. Elle était ajustée comme seule pouvait l'être une cuirasse, moulée à sa large carrure. Sa lame d'éclat était cruellement hérissée, évoquant des flammes solidifiées sous forme de métal. Il la leva pour saluer Dalinar. « Maintenant !» hurla Dalinar, incrédule. « C'est maintenant que vous arrivez ?» Le porte-éclat s'avança, ses bottes d'acier cliquetant sur la pierre. Les autres Parchendi reculèrent. « Pourquoi pas plus tôt ?» demanda Dalinar avec insistance, s'empressant d'adopter la posture du vent, clignant de l'œil gauche pour en chasser la sueur. Il se tenait près de l'ombre qui évoquait un livre posé sur la tranche. Pourquoi attendre la fin de la bataille pour attaquer seulement maintenant, alors que Dalinar s'apprêtait à s'échapper? Apparemment, le porte-éclat Parchendi avait été disposé à laisser ses compagnons se jeter sur Dalinar quand il semblait évident qu'il allait tomber. Peut-être permettait-il aux soldats ordinaires d'essayer de remporter des éclats, comme on le faisait dans les armées humaines. À présent que Dalinar menaçait de s'échapper, le risque de perdre une lame et une cuirasse était trop grand, si bien qu'on envoyait le porte-éclat le combattre. Le porte-éclat s'avança, parlant la langue gutturale des Parchendi. Dalinar ne comprenait rien. Il leva sa lame et adopta sa posture. Le Parchendi ajouta quelques mots, puis s'avança avec un grognement, brandissant son épée. Dalinar jura tout bas, l'œil gauche toujours aveuglé. Il esquiva et répliqua, frappant l'arme de son ennemi. La parade secoua Dalinar à l'intérieur de son armure. Ses muscles répondaient mollement. La fulgiflamme s'échappait toujours des fissures de son armure, mais elle faiblissait. Il ne s'écoulerait guère de temps avant que la cuirasse cesse d'agir. Le porte-éclat Parchendi attaqua de nouveau. Sa posture était inconnue de Dalinar, mais elle trahissait un certain entraînement. Ce n'était pas là un sauvage jouant avec une arme puissante. C'était un porte-éclat exercé. Dalinar fut contraint de parer une fois encore ce pour quoi la posture du vent n'était pas conçue. Ses muscles alourdis par son armure étaient trop lents pour esquiver, et sa cuirasse était trop fendue pour qu'il puisse courir le risque de se laisser frapper. Le coup faillit lui faire perdre sa posture. Il serra les dents, mit tout son poids dans son arme et exagéra volontairement sa posture lorsque tomba le coup suivant du Parchendi. Les lames se croisèrent avec un claquement furieux, projetant une gerbe d'étincelles comme un seau de métal en fusion jeté dans les airs. Dalinar récupéra très vite et se projeta vers l'avant pour tenter de planter son épaule dans la poitrine de son ennemi. Mais le Parchendi demeurait au fait de sa puissance, et sa cuirasse était intacte. Il s'écarta et fut tout près de toucher Dalinar dans le dos. Dalinar se retourna juste à temps, puis il fit volte-face, sauta sur une petite formation rocheuse, avant de monter sur une saillie plus élevée et réussit à atteindre le sommet. Le Parchendi le suivit, comme il l'avait espéré. Son équilibre précaire augmentait le danger, ce qui lui convenait très bien. Un coup unique pouvait suffire à le tuer, ce qui exigeait de prendre des risques. Quand le Parchendi atteignit le sommet de la formation, Dalinar attaqua, utilisant l'avantage d'un meilleur équilibre et de la position surélevée. Le Parchendi ne prit pas la peine d'esquiver. Il reçut un coup sur le casque, qui se fendit, mais il eut ainsi l'occasion de frapper Dalinar aux jambes. Dalinar sauta en arrière avec une douloureuse sensation de léthargie. Il esquiva de justesse et ne parvint pas à porter un deuxième coup avant que le Parchendi ne grimpe au sommet du rocher. Le Parchendi porta un coup vers l'avant. Serrant la mâchoire, Dalinar leva l'avant-bras pour parer et alla au-devant de l'attaque, priant les héros pour que la plate de son avant-bras dévie le coup. L'épée Parchendi le toucha, faisant voler la cuirasse en éclats, et une onde de choc lui remonta le long du bras. Le gantelet lui sembla soudain peser aussi lourd que s'il eût été en plomb, mais Dalinar continua à avancer, portant à son tour un coup d'épée, non pas contre l'armure du Parchendi, mais contre la pierre en dessous de lui. Alors même que les éclats fondus de la plate de son avant-bras jaillissaient dans les airs, il trancha la saillie rocheuse sous les pieds de son adversaire. La section tout entière se détacha, envoyant le porte-éclat basculer en arrière. Il heurta le sol à grand fracas. Dalinar abattit son poing, celui dont la plate était brisée, sur le sol, et libéra le gantelet, lequel se détacha. Dalinar leva en l'air sa main nue, refroidie par la sueur. Il abandonna le gantelet, qui ne fonctionnerait plus correctement à présent que la pièce de l'avant-bras avait disparu, et hurla tout en brandissant d'une main sa lame. Il traversa un autre morceau de rocher qu'il fit tomber vers le porte-éclat. Le Parchendi se releva, mais le rocher s'écrasa sur lui dans une gerbe de fulgiflamme avec un craquement sonore. Dalinar descendit, s'efforçant d'atteindre le Parchendi tant qu'il était immobile, mais sa jambe droite traînait, et lorsqu'il atteignit le sol, il boitait. S'il retirait sa botte, il ne pourrait plus soutenir le reste de la cuirasse d'éclat. Il serra les dents et s'arrêta alors que le Parchendi se relevait. Il avait été trop lent. L'armure du Parchendi, bien que fissurée à plusieurs endroits, était nettement moins abîmée que celle de Dalinar. Chose impressionnante, il était parvenu à garder sa lame d'éclat. Il leva la tête vers Dalinar, les yeux cachés derrière la fente de son casque. Autour d'eux, les autres Parchendi les regardaient, formant un cercle silencieux, mais sans intervenir. Dalinar leva sa lame, la tenant d'une main gantée de métal et d'une main nue. La brise était froide sur sa main moite et exposée. Inutile de courir. Il allait se battre ici. Pour la première fois depuis de nombreux mois, Kaladin se sentait pleinement éveillé et en vie. La beauté de la lance qui sifflait dans les airs, l'unité du corps et de l'esprit, les mains et les pieds réagissant instantanément, plus vite que l'on ne pouvait former les pensées. La clarté et la familiarité des anciennes positions à la lance, apprises lors de la période la plus affreuse de sa vie. Son arme était une extension de lui-même. Il la maniait aussi aisément et instinctivement que ses doigts. Tournoyant sur lui-même, il traversa les rangs des Parchendi, châtiant ceux qui avaient massacré tant de ses amis. Une vengeance pour chacune des flèches tirées contre sa propre chair. Avec la fulgiflamme créant une vibration extatique en lui, il percevait un rythme dans la bataille, presque identique à la cadence du chant des Parchendi. Et il chantait. Il s'était remis de l'avoir vu absorber la fulgiflamme et prononcer les paroles du deuxième idéal. Ils attaquaient à présent par vagues, s'efforçant d'atteindre le pont pour le faire basculer. Certains avaient sauté de l'autre côté pour attaquer d'une autre direction, mais Moash y avait conduit des hommes de pont pour riposter. Étonnamment, il tenait bon. S'il tournoyait autour de Kaladin, à une vitesse qui brouillait ses mouvements, se laissant porter par les vagues de fulgiflammes qui s'élevaient de sa peau, se déplaçant comme une feuille au vent d'une tempête. Ensorcelé, il ne l'avait encore jamais vu ainsi. Il n'interrompit pas ses attaques. D'une certaine façon, il n'y en avait qu'une seule, car chaque coup enchaînait directement sur le suivant. Sa lance ne s'arrêtait jamais, et avec l'aide de ses hommes, il repoussa les Parchendi, acceptant chaque défi tandis qu'ils avançaient par paires. Tués, massacrés, le sang jaillissait, et les mourants gémissaient à ses pieds. Il s'efforçait de ne pas y prêter trop attention. Ils étaient l'ennemi, mais la gloire pure de ses actions semblait trancher avec la désolation qu'il semait. Il protégeait, il sauvait, et cependant, il tuait. Comment quelque chose pouvait-il être si affreux et si magnifique à la fois? Il esquiva le coup d'une épée argentée finement ouvragée, puis asséna un coup de lance sur le côté, broyant des côtes. Il fit tournoyer la lance, brisant sa hampe déjà fracturée sur le flanc du camarade du Parchendi. Il lança ce qu'il en restait vers un troisième homme, puis s'empara d'une nouvelle lance que lui jetait l'Open. Le Herdasien les récupérait sur les cadavres d'Aleti tout proche pour les lui donner lorsqu'il en avait besoin. Lorsqu'on engageait le combat avec un homme, on apprenait quelque chose sur lui. Vos ennemis étaient-ils précis et prudents? Forçaient-ils le passage, agressifs et dominateurs? Crachaient-ils des jurons pour vous mettre en rage? Étaient-ils implacables, ou laissaient-ils la vie sauve à un homme manifestement incapable de continuer à se battre? Les Parchendi l'impressionnaient. Il en combattait des dizaines. Chacun se battait d'une manière légèrement différente. Il lui semblait qu'il ne lui en envoyait que deux ou quatre à la fois. Leurs attaques étaient minutieuses et maîtrisées, et chaque paire se battait en équipe. Il semblait le respecter pour son adresse. Plus révélateur, il semblait refuser de combattre Scar ou Teft, qui étaient blessés, pour s'occuper plutôt de Kaladin, de Moash et des autres lanciers qui se révélaient plus habiles. Ce n'étaient pas là les sauvages incapables de raffinement qu'on lui avait fait croire. C'étaient des soldats professionnels, respectant une éthique de combat honorable qui manquait à beaucoup d'Aleti. Chez eux, il trouvait ce qu'il avait toujours espéré trouver chez les soldats des plaines brisées. Cette révélation l'ébranla. Il se surprenait à respecter les Parchendi alors même qu'il les tuait. En fin de compte, la tempête en lui le poussa vers l'avant. Il avait choisi un camp. Et ces Parchendi massacreraient l'armée de Dalinar Colline sans le moindre remords. Kaladin s'était engagé. Il allait s'assurer que lui-même et les autres aillent jusqu'au bout. Il ignorait depuis combien de temps au juste il se battait. Le pont 4 résistait remarquablement bien. Ils ne se battirent sans doute pas très longtemps, autrement ils se seraient retrouvés dépassés. Mais la multitude de Parchendi blessés et mourants autour de Kaladin semblait indiquer que le combat durait depuis des heures. Il fut à la fois soulagé et curieusement déçu quand une silhouette vêtue d'une cuirasse traversa les rangs des Parchendi, libérant un flot de soldats en bleu. Kaladin recula à contre-cœur, le cœur cognant à tout rompre, la tempête s'apaisant en lui. La lumière avait cessé de s'échapper visiblement de sa peau. L'afflux continu de Parchendi aux 13 ornées de gemmes lui avait permis de rester alimenté lors de la première partie du combat, mais les suivants était venu à lui sans gemme, autre élément témoignant qu'ils n'étaient pas les sous-humains simples d'esprit qu'affirmaient les Palsiris. Ils avaient vu ce qu'ils faisaient, et même sans l'avoir compris, ils l'avaient contrecarré. Ils disposaient d'assez de flammes pour éviter de s'effondrer. Mais alors que les Aleti repoussaient les Parchendi, Kaladin comprit à quel point leur arrivée tombait à point nommé. « Je dois faire très attention », se dit-il. La tempête intérieure lui donnait soif de mouvement et d'attaque, mais s'en servir épuisait son corps. Plus il s'en servait, plus vite il le faisait, pire étaient les conséquences lorsqu'elle s'épuisait. Les soldats Aleti se mirent en position de défense des deux côtés du pont, et les hommes de pont épuisés reculèrent, et beaucoup s'assirent en serrant la main sur leurs blessures. Kaladin se précipita vers eux. « Rapport !»«
3 morts !» dit Rock d'un air lugubre en s'agenouillant près des corps qu'il avait disposés à terre.
Malop, Jack sans oreille et Narm. Kaladin fronça les sourcils sous l'effet du chagrin. « Réjouis-toi que les autres soient vivants », se dit-il. C'était facile à penser, mais difficile à accepter.
« Comment allez-vous, tous les autres ?»
5 autres avaient des blessures sérieuses, mais Rock et Lopen s'en étaient occupés. Ces deux-là apprenaient très bien les leçons dispensées par Kaladin. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour les blesser. Il regarda le corps de Malop. Il avait reçu un coup de hache au bras qui l'avait tranché et avait fendu l'os. C'était l'hémorragie qui l'avait tué. Si Kaladin n'avait pas été en train de se battre, il aurait peut-être réussi à... Non, pas de regret pour l'instant.
Retraverser en sens inverse, dit-il à ses hommes en désignant le pont. « Teft, c'est vous qui commandez. Moash, vous êtes assez fort pour rester avec moi ?»«
Ça oui !» répondit Moash, un rictus sur son visage ensanglanté.
Il semblait surexcité plutôt qu'épuisé. Les 3 morts avaient été de son côté, mais les autres et lui s'étaient remarquablement bien battus. Les autres hommes de pont se retirèrent. Kaladin se retourna pour inspecter les soldats Aleti. C'était comme regarder l'intérieur d'une tente de tri. Chacun des hommes avait une plaie de l'une ou l'autre sorte. Ceux du milieu titubaient et boitaient. Ceux de l'extérieur se battaient toujours, l'uniforme ensanglanté et déchiré. La retraite avait viré au chaos. Il se fraya un chemin parmi les blessés en leur faisant signe de traverser le pont. Certains lui obéirent. D'autres restèrent debout, l'air hébété. Kaladin se précipita vers un groupe qui semblait s'en sortir mieux que d'autres. « Qui commande ici ?»
C'est... Le visage du soldat avait reçu une entaille à la joue.
Le clarissime Dalinar.
Votre supérieur immédiat. Qui est votre capitaine?
Il est mort, répondit l'homme, ainsi que mon chef de compagnie et son second.
Père des tempêtes, songea Kaladin.
Traversez le pont, dit-il avant de se remettre en marche. Il me faut un officier. Qui commande la retraite?
Plus loin, il distinguait une silhouette à la cuirasse d'éclat bleu et raflée, qui se battait à l'avant du groupe. Ce devait être Adolin, le fils de Dalinar. Il s'affairait à tenir les Parchendi à distance. Il ne serait pas très judicieux de le distraire.
« Par ici !» lui lança un homme. « J'ai trouvé le clarissime Avar, c'est le commandant de l'arrière-garde »
« Enfin !» se dit Kaladin, traversant précipitamment le chaos pour trouver un Palyris barbu étendu sur le sol, en train de tousser du sang. Kaladin l'inspecta et remarqua l'énorme plaie au ventre. « Qui est son second ?»«
Mort, »
dit l'homme qui se tenait près du commandant. C'était un pâle iris. « Et vous êtes ?» demanda Kaladin.
« Nakomb Gaval. »
Il semblait jeune, plus jeune que Kaladin. « Vous êtes promu, » dit Kaladin. « Faites traverser le pont à ces hommes le plus vite possible. Si quelqu'un vous pose la question, vous avez été nommé commandant de l'arrière-garde. Si qui que ce soit affirme avoir l'autorité sur vous, envoyez-le-moi. » L'homme sursauta.
« Promu ? Qui êtes-vous ? Vous pouvez vraiment faire ça ?»«
Il faut bien que quelqu'un le fasse, » aboya Kaladin. « Allez-y, au travail !»«
Je... »«
Allez-y !» hurla Kaladin. Par miracle, le paliris le salua et se mit à crier pour appeler son escouade. Les hommes de Colline étaient blessés, meurtris, hébétés, mais ils étaient bien entraînés. Avec quelqu'un à leur tête, les ordres furent vite transmis. Les escouades traversèrent le pont en formation de marche. Au milieu de toute cette confusion, ils s'accrochaient sans doute à ces schémas familiers. Quelques minutes plus tard, la masse centrale de l'armée de Colline s'écoulait à travers le pont comme du sable dans un sablier. Le cercle des combats se resserra. Malgré tout, les hommes hurlaient et mouraient dans un tumulte anarchique, épée contre bouclier, lance contre métal. Kaladin s'empressa de retirer la carapace de son armure. Il ne semblait guère judicieux de mettre les Parchendi en rage pour le moment, puis s'avança parmi les blessés à la recherche d'autres officiers. Il en trouva quelques-uns, mais ils étaient hébétés, blessés et essoufflés. Apparemment, ceux qui étaient toujours en état de se battre dirigeaient les deux flancs qui retenaient les Parchendi. Suivi de Moash, Kaladin se précipita vers le centre de la première ligne où les Aleti semblaient résister le mieux. Ici, enfin, il trouva quelqu'un qui commandait. Un paliris grand et majestueux, avec un plastron d'acier et un casque assorti, dont l'uniforme était d'une nuance de bleu plus foncée que les autres. Il dirigeait les combats depuis un emplacement situé juste derrière les premières lignes. L'homme adressa un signe de tête à Kaladin, hurlant pour se faire entendre malgré les bruits du combat.
« Vous commandez les hommes de pont ?»«
En effet, » répondit Kaladin. « Pourquoi vos hommes ne traversent-ils pas ?»«
Nous sommes la garde Cobalt, » dit l'homme. « Notre devoir consiste à protéger le clarissime Adoline. »
L'homme désigna Adoline et sa cuirasse bleue un peu plus loin. Le porte-éclat semblait progresser vers quelque chose.
« Où est le haut prince ?» cria Kaladin. « Nous ne le savons pas au juste. »
L'homme fit la grimace.
« Ses gardes ont disparu. »
« Vous devez battre en retraite. Le gros de l'armée a traversé. Si vous restez ici, vous allez vous retrouver cerné.
Nous n'abandonnerons pas le clarissime Adoline. Je suis désolé. »
Kaladin regarda autour de lui. Les groupes d'Aleti qui se battaient au niveau des flancs résistaient à grand-peine. Mais ils ne se retireraient pas sans en avoir reçu l'ordre.
« Très bien, »
dit Kaladin, qui leva sa lance et se fraya un chemin vers la première ligne. Ici, les Parchendi se battaient avec vigueur. Kaladin en décapita un et se mit à tournoyer pour se retrouver au milieu d'un groupe, agitant sa lance. Sa fulgiflamme s'était presque épuisée, mais ses Parchendi portaient des gemmes dans leur barbe. Il inspira très légèrement afin de ne pas se dévoiler aux soldats Aleti et se lança à l'attaque. Les Parchendi reculèrent devant la fureur de son assaut et les quelques membres de la garde Cobalt qui l'entouraient reculèrent en titubant, l'air abasourdi. En quelques secondes, Kaladin se retrouva avec une dizaine de Parchendi sur le sol autour de lui, mort ou blessé, ce qui ouvrit une brèche dans laquelle il s'engouffra avec Moash sur ses talons. Une grande partie des Parchendi se concentrait sur Adoline, dont la cuirasse d'éclat bleu était éraflée et fendue. Kaladin n'avait jamais vu une cuirasse en si pitoyable état. De la fulgiflamme s'échappait de ses fissures de la même manière qu'elle s'élevait de la peau de Kaladin lorsqu'il en détenait ou en utilisait une grande quantité. Devant la fureur d'un porte-éclat en guerre, Kaladin hésita. Moash et lui s'arrêtèrent tout juste hors de portée du combattant, et les Parchendi ignorèrent les hommes de pont, cherchant avec un désespoir manifeste à terrasser le porte-éclat. Adoline traversa de sa lame plusieurs hommes à la fois, mais comme Kaladin l'avait déjà constaté à une occasion, sa lame n'entaillait pas la chair. Les yeux des Parchendi brûlaient et noircissaient, et des dizaines tombèrent raides morts, tandis qu'Adeline amassait les corps autour de lui comme des fruits mûrs tombant d'un arbre. Et cependant, Adeline était visiblement en difficulté. Sa cuirasse d'éclat n'était pas simplement fendue. Elle comportait des trous par endroits. Son casque avait disparu, mais il l'avait remplacé par un casque ordinaire de lancier. Il boitait de la jambe gauche, la traînant presque derrière lui. Cette lame était mortelle, mais les Parchendi se rapprochaient de plus en plus. Kaladin n'osait pas s'avancer, à portée de son arme. « Adeline, Colline !» s'écria-t-il. L'homme continuait à se battre. « Adeline, Colline !» hurla de nouveau Kaladin, qui sentit une petite bouffée de fulgiflamme le quitter, et sa voix résonnait bruyamment. Le porte-éclat hésita, puis regarda Kaladin. À contre-cœur, il recula, laissant la garde Cobalt se précipiter pour retenir les Parchendi, utilisant le chemin ouvert par Kaladin. « Qui êtes-vous ? » demanda Adeline avec autorité en rejoignant Kaladin. Son visage fier et juvénile était trempé de sueur, et ses cheveux étaient une masse confuse de blond mêlé de noir. « Je suis l'homme qui vous a sauvé la vie, » répondit Kaladin. « J'ai besoin que vous donniez l'ordre de battre en retraite. Vos troupes ne peuvent plus se battre. »« Mon père est là-bas, homme de pont, » répondit Adeline en tendant son énorme lame. « Je l'ai vu il y a quelques instants à peine. Son riche adium est allé le retrouver, mais ni le cheval ni le cavalier ne sont revenus. Je vais conduire une escouade pour... »« Vous allez battre en retraite !» dit Kaladin exaspéré. « Regardez vos hommes, Colline. Ils peuvent à peine rester debout sans parler de se battre. » Vous en perdez une dizaine chaque minute. Il faut les faire sortir. « Je refuse d'abandonner mon père !» s'obstina Adeline. « Au nom de... » « Si vous mourez, Adeline Colline, ces hommes n'auront plus rien. Leurs commandants sont morts ou blessés. Vous ne pouvez pas atteindre votre père. Vous arrivez à peine à marcher. Je répète, emmenez vos hommes en lieu sûr !» Le jeune porte-éclat recula, clignant des yeux en entendant le ton de Kaladin. Il regarda vers le nord-est, vers l'endroit où une silhouette en gris ardoise apparut soudain sur un affleurement rocheux, en train de combattre une autre silhouette en cuirasse d'éclat. « Il est si près !» Kaladin inspira profondément. « Je vais aller le chercher. Dirigez la retraite. Défendez le pont, mais seulement le pont. » Adeline lança un regard noir à Kaladin. Il fit un pas. Mais quelque chose céda dans son armure et il tituba et tomba sur un genou. Serrant les dents, il parvint à se lever. « Capitaine Malan !» hurla Adeline. « Prenez vos soldats, accompagnez cet homme, allez chercher mon père !» L'homme auquel Kaladin avait parlé un peu plus tôt salua d'un geste brusque. Adeline lança de nouveau un regard assassin à Kaladin, puis souleva sa lame d'éclat et s'avança avec difficulté vers le pont. « Moash ! « Accompagnez-le !» dit Kaladin. « Mais faites-le, Moash !» insista Kaladin d'un air lugubre, jetant des coups d'œil vers l'affleurement où Dalinar se battait. Kaladin prit une profonde inspiration, mit sa lance sous son bras et s'élança à toute allure. La garde Cobalt hurla à son intention, s'efforçant de le suivre, mais il ne regarda pas derrière lui. Il atteignit la ligne des attaquants Parchendi, pivota, et en fit trébucher deux à l'aide de sa lance, sauta par-dessus leur corps, et continua. La plupart des Parchendi de cette zone étaient distraits par la lutte de Dalinar ou le combat pour s'emparer du pont. Les rangs étaient plus clairsemés ici, entre les deux fronts. Kaladin avançait vite, aspirant davantage de flammes tout en courant, esquivant et contournant les Parchendi qui tentaient de l'arrêter. En quelques instants, il eut atteint l'endroit où Dalinar s'était battu. Bien que la saillie rocheuse soit vide à présent, un large groupe de Parchendi était rassemblé à sa base. « Là !» se dit-il, avant de faire un bond en avant. Un cheval hennit. Dalinar leva les yeux, stupéfait, pour voir Vaillant chargé dans le cercle que les Parchendi avaient dégagé. Le riche adium était venu vers lui. Comment ? Où ? Le cheval aurait dû être libre et à l'abri sur le plateau de rassemblement. Il était trop tard. Dalinar était sur un genou, vaincu par le porte-éclat ennemi. D'un coup de pied en pleine poitrine, le Parchendi le renversa en arrière. Suivi un coup au casque,
puis un autre, encore un autre. Le casque explosa, et la force de l'impact laissa Dalinar hébété. Où se trouvait-il? Qu'était-il en train de se produire? Pourquoi était-il cloué au sol par quelque chose de si lourd? « Ma cuirasse, » se dit-il en s'efforçant de se lever. « Je porte ma cuirasse. » Le vent souffla sur son visage. Les coups à la tête. Il fallait s'en méfier, même lorsqu'on portait une cuirasse d'éclat. Son ennemi se dressait au-dessus de lui et semblait l'inspecter, comme s'il cherchait quelque chose. Dalinar avait laissé tomber sa lame. Les soldats par Shendiz ordinaire entouraient le duel. Ils forcèrent Vaillant à reculer, ce qui fit hennir le cheval. Il se cabra. Dalinar le regarda, pris de vertige. Pourquoi le porte-éclat ne se contentait-il pas de l'achever? Le géant Parchendi se pencha, puis parla. Ses mots étaient teintés d'un accent épais, et l'esprit de Dalinar faillit les ignorer. Mais d'aussi près, Dalinar prit conscience de quelque chose. Il comprenait ce qu'il entendait. L'accent était presque impénétrable, mais les mots étaient en aléti. C'est vous, dit le porte-éclat Parchendi. Je vous ai enfin trouvé. Dalinar cligna des yeux sous l'effet de la surprise. Quelque chose se passait dans les derniers rangs des soldats Parchendi qui les entouraient. La scène avait quelque chose de familier. Des Parchendi tout autour, un porte-éclat en danger. Dalinar l'avait déjà vécu, mais de l'autre côté. Ce porte-éclat ne pouvait pas être en train de lui parler. Dalinar avait reçu un coup trop fort à la tête, ça devait être une illusion. Qu'était donc cette perturbation dans le cercle d'observateurs Parchendi? Sadeas, se dit Dalinar, l'esprit confus. Il vient à mon secours, comme j'étais venu au sien. Unissez-les. Il va venir, se dit Dalinar. Je le sais, je vais les rassembler. Les Parchendi hurlaient, bougeaient, se tortillaient. Soudain, une silhouette les traversa brusquement. Ce n'était pas Sadeas. C'était un jeune homme aux traits forts, aux longs cheveux bouclés. Il portait une lance et il resplendissait. Quoi? Se dit Dalinar, hébété. Kaladin atterrit dans le cercle ouvert. Les deux porte-éclats se trouvaient au centre, l'un à terre, avec de la fulgiflamme s'échappant faiblement de son corps. Trop faiblement. Compte tenu du nombre de fissures, ses gemmes devaient être presque épuisées. L'autre, un Parchendi à en juger par la taille et la forme de ses membres, se dressait au-dessus de celui qui était tombé à terre. « Génial !» se dit Kaladin, se précipitant avant que les soldats Parchendi puissent rassembler leurs esprits et l'attaquer. Le porte-éclat Parchendi était penché vers l'avant, concentré sur Dalinar. La cuirasse du porte-éclat dégageait de la fulgiflamme par une large fissure au niveau de la jambe. Alors, tandis que ses souvenirs revenaient soudainement au jour où il avait secouru Amaram, Kaladin s'approcha et planta sa lance dans la fissure. Le porte-éclat hurla et laissa tomber sa lame sous l'effet de la surprise. Elle s'évapora. Kaladin dégagea sa lance d'un coup sec et recula. Le porte-éclat lança vers lui son poing ganté, mais le manqua. Kaladin s'avança et, projetant toute sa force dans le cou, planta de nouveau sa lance dans l'armure fendue au niveau de la jambe. Le porte-éclat hurla encore plus fort, trébucha, puis tomba à genoux. Kaladin s'efforça de dégager sa lance, mais l'homme s'effondra dessus, brisant la hampe. Kaladin recula de nouveau, faisant désormais face à un cercle de Parchendi, les mains vides, tandis que de la fulgiflamme s'échappait de son corps. Silence. Puis ils se remirent à parler, à prononcer les mêmes mots qu'un peu plus tôt. Neshwa Kadal. Ils se les répétaient, murmurant d'un air perplexe. Puis ils entonnèrent un chant qu'ils n'avaient jamais entendu. C'est déjà ça, songea Kaladin. Du moment qu'il ne l'attaquait pas, Dalinar Colline était en train de se redresser pour s'asseoir. Kaladin s'agenouilla, ordonnant à la majeure partie de sa fulgiflamme de s'échapper dans le sol rocheux, en conservant juste assez pour lui permettre de continuer, mais pas assez pour le faire briller. Puis, Il se précipita vers le cheval caparaçonné sur le côté du cercle de Parchendi. Les Parchendi s'écartèrent de lui, l'air terrifié. Il prit les rênes et rejoignit rapidement le haut prince. Dalinar secoua la tête, s'efforçant d'éclaircir ses pensées. La tête lui tournait, mais ses pensées retrouvaient forme. Que s'était-il passé? Il avait reçu un coup à la tête et à présent, le porte-éclat était vaincu. Vaincu? Qu'est-ce qu'il avait fait tomber? La créature lui avait-elle réellement parlé? Non, il avait dû l'imaginer, de même que cette lueur que dégageait le jeune lancier. Il n'y en avait aucune actuellement. Tenant les rênes de Vaillant, le jeune homme adressa un signe insistant à Dalinar. Celui-ci s'obligea à se lever. Autour d'eux, les Parchendi marmonnaient quelque chose d'inintelligible. « Cette cuirasse d'éclat, » se dit Dalinar en regardant les Parchendi à genoux. « Une lame d'éclat. Je pourrais tenir ma promesse à Renarin. Je pourrais... » Le porte-éclat geignait, serrant sa jambe d'une main gantée de plate. Dalinar brûlait d'envie de l'achever. Il avança d'un pas, traînant son pied inerte. Autour d'eux, les troupes Parchendi les regardaient en silence. Pourquoi n'attaquait-elle pas? Le grand lancier courut jusqu'à Dalinar, tirant les rênes de Vaillant. « Ancel, Paliris, nous devrions l'achever. Nous pourrions... Ancel !» ordonna le jeune homme, lui jetant les rênes tandis que les soldats Parchendi se retournaient pour engager le combat avec un contingent de soldats Aleti en approche. « Vous êtes censé être quelqu'un d'honorable !» rugit le lancier. Dalinar avait rarement entendu quiconque lui parler ainsi, surtout un sombre iris. « Eh bien, vos hommes ne partiront pas sans vous, et mes hommes ne partiront pas sans eux. Donc vous allez monter en selle, et nous allons nous échapper de ce piège, vous comprenez ?» Dalinar croisa le regard du jeune homme, puis hocha la tête. Bien sûr, il avait raison. Il fallait qu'ils abandonnent le porte-éclat ennemi. De toute manière, comment s'y prendraient-ils pour lui retirer son armure? En emportant le corps avec eux tout du long? « Retraite !» hurla Dalinar à ses soldats en se hissant sur la selle de Vaillant. Il y parvint de justesse, tant il restait peu de fulgiflammes dans son armure. Vaillant, loyal et fiable, se mit à galoper dans le couloir que ses hommes lui avaient dégagé avec leur sang. Le lancier sans nom se précipita derrière lui, et la garde Cobalt se mit en position tout autour. Un plus grand groupe de ses hommes se trouvait un peu plus loin sur le plateau de sortie. Le pont résistait toujours, avec Adeline qui attendait à sa tête d'un air inquiet, le gardant pour permettre la retraite de Dalinar. Avec une bouffée de soulagement, Dalinar traversa le pont de bois au galop et atteignit le plateau contigu. Adeline et le restant de ses troupes le suivirent en file. Il fit tourner Vaillant vers l'est. Les Parchendi se bousculaient jusqu'au gouffre, mais sans leur donner la chasse. Plusieurs d'entre eux s'affairaient sur la chrysalide au sommet du plateau. Tous les camps l'avaient oublié dans la fureur du combat. Il ne les avait encore jamais suivis, mais s'il changeait d'avis à présent, il pouvait pourchasser les hommes de Dalinar jusqu'au pont permanent. Ils n'en firent rien. Ils formèrent des rangs et entonnèrent un autre de leurs chants, celui-là même qu'ils chantaient chaque fois que l'armée Aleti se retirait. Dalinar vit alors une silhouette vêtue de cuirasses d'éclat argentées craquelées et d'une cape rouge venir se placer en titubant à l'avant de leur groupe. Elle avait retiré son casque, mais elle était trop lointaine pour que l'on puisse distinguer des traits sur cette peau marbrée de noir et rouge. L'ancien adversaire de Dalinar leva sa lame d'éclat en un geste reconnaissable entre tous. Un salut, un geste de respect. Instinctivement, Dalinar invoqua sa lame et, 10 battements de cœur plus tard, la leva pour saluer en retour. Les hommes de pont tirèrent le pont de l'autre côté du gouffre, séparant les armées. « Installez une unité de tri !» cria Dalinar. « Nous n'abandonnerons personne qui ait une chance de survivre. Les Parchendi ne vont pas nous attaquer ici. » Ces hommes poussèrent un cri. D'une certaine façon, cette évasion leur faisait davantage l'effet d'une victoire que tous les cœurs de gemmes qu'ils avaient pu remporter. Les troupes Aleti fatiguées se divisèrent en bataillons. 8 avaient marché au combat et 8 étaient revenus, même si certains ne comptaient plus que quelques centaines de membres.
Les hommes formés à soigner les blessés parcoururent les rangs tandis que les officiers restants faisaient le compte des survivants. Les hommes commencèrent à s'asseoir parmi les sprènes de douleur et d'épuisement, ensanglantés, certains désarmés, beaucoup arborant un uniforme déchiré. Sur l'autre plateau, les Parchendi poursuivaient leur chant étrange. Dalinar se surprit à observer l'équipe de Pont. Le jeune homme qui l'avait sauvé était apparemment leur chef. Avait-il vaincu un porte-éclat ? Dalinar gardait le souvenir flou d'un combat brut et rapide, d'un coup de lance à la jambe. De toute évidence, le jeune homme possédait autant d'adresse que de chance. L'équipe de l'homme de Pont agissait avec davantage de coordination et de discipline que Dalinar ne l'aurait attendu d'homme de rang si humble. Il ne pouvait plus attendre. Dalinar fit avancer vaillant, foulant le sol pierreux, longeant des soldats épuisés et blessés. Ce qui lui rappela sa propre fatigue, mais, à présent qu'il était assis, il récupérait et la tête ne lui tournait plus. Le chef de l'équipe de Pont s'occupait de la blessure d'un homme, et ses doigts travaillaient avec expertise. Un homme formé à la médecine de guerre parmi les hommes de Pont ? Eh bien, pourquoi pas ? Se dit Dalinar. Ce n'est pas plus curieux que le fait qu'il sache si bien se battre. Sa déesse lui avait caché des choses. Le jeune homme leva les yeux, et pour la première fois, Dalinar remarqua les marques d'esclave sur son front, cachées par ses cheveux longs. Le jeune homme se leva, l'attitude hostile, croisant les bras. « Soyez loués !» déclara Dalinar. « Tous autant que vous êtes. Pourquoi votre haut prince s'est-il retiré, si c'était pour vous renvoyer nous chercher ?» Plusieurs des hommes de Pont gloussèrent. « Il ne nous a pas renvoyés, » dit leur chef. « Nous sommes venus de nous-mêmes, contre son avis. » Dalinar hocha la tête et comprit que c'était la seule réponse qui ait un sens. « Pourquoi ? » demanda-t-il. « Pourquoi venir nous chercher ?» Le jeune homme haussa les épaules. « Vous vous êtes laissé piéger là-dedans de manière assez spectaculaire. » Dalinar hocha la tête avec lassitude. Peut-être le ton du jeune homme aurait-il dû l'agacer, mais ce n'était que la vérité. « Oui, mais pourquoi êtes-vous venu ? Et comment avez-vous appris à si bien vous battre ?»« Par accident, » dit le jeune homme avant de reporter son attention sur son blessé. « Comment puis-je vous récompenser ?» demanda Dalinar. L'homme de Pont se tourna vers lui. « Je ne sais pas. Nous nous apprêtions à fuir sa déesse, à disparaître dans la confusion. C'est peut-être encore possible, mais il va certainement nous pourchasser et nous tuer. Je pourrais emmener vos hommes à mon camp et obliger sa déesse à vous libérer de votre esclavage. J'ai peur qu'il refuse de nous laisser partir, répondit l'homme de Pont, les yeux hagards, et que votre camp ne nous offre aucune sécurité. Cette manœuvre de sa déesse, aujourd'hui, elle marque le début d'une guerre entre vous deux, n'est-ce pas ? Était-ce le cas ? Dalinar avait évité de penser à sa déesse. La survie avait monopolisé ses pensées, mais sa colère contre cet homme était un puits brûlant au plus profond de lui. Il allait se venger de sa déesse. Mais comment pouvait-il permettre une guerre entre les principautés ? Ça détruirait Aletkar. Plus encore, ça détruirait la maison Colline. Dalinar n'avait ni les troupes ni les alliés nécessaires pour résister contre sa déesse. Pas après cette catastrophe. Comment réagirait sa déesse quand Dalinar reviendrait ? Essaierait-il d'achever la tâche en attaquant ? Non, se dit Dalinar. Non, il a agi ainsi pour une raison. Sa déesse n'avait pas engagé le combat contre lui personnellement. Il avait abandonné Dalinar, mais selon les critères Aleti, c'était totalement différent. Lui non plus ne voulait pas faire courir de risques au royaume. Sa déesse ne voudrait pas d'une guerre ouverte. Et Dalinar ne pouvait pas se le permettre, malgré la colère qui bouillonnait en lui. Il serra le poing et se retourna vers le lancier. « Je ne vais pas déclencher de guerre, » répondit Dalinar. « Pas pour l'instant, en tout cas. »« Eh bien, si c'est le cas, » dit le lancier, « en nous emmenant dans votre camp, vous commettez un vol. La loi du roi, les codes dont mes hommes affirment que vous les suivez,
exigerait que vous nous rendiez à sa déesse. Il ne voudra jamais nous laisser partir si facilement.
« Je vais m'occuper de sa déesse, » dit Dalinar. « Rentrez avec moi. Je vous fais le serment que vous serez en sécurité. Je le promets avec tout l'honneur que je porte en moi. »
Le jeune homme de pont croisa son regard pour y chercher quelque chose. Quelle dureté chez un homme si jeune!
« D'accord, » répondit-il enfin. « Nous allons rentrer. Je ne peux pas laisser mes hommes retourner au camp et avec tous ces blessés, nous n'avons pas les fournitures nécessaires pour prendre la fuite. »
Le jeune homme se remit au travail, et Dalinar s'en alla chercher à cheval le rapport sur le nombre de victimes. Il se força à contenir la rage qu'il éprouvait envers sa déesse. C'était difficile. Non, Dalinar ne pouvait pas permettre que la situation débouche sur une guerre. Mais il ne pouvait pas davantage laisser les choses redevenir comme avant.
Sa déesse avait perturbé l'équilibre, qui ne pourrait désormais plus être retrouvé. Pas de la même façon.